C'est un joli livre que j'ai dans les mains et j'ai la chance d'avoir l'auteur de ce livre. Bonjour Gérard Bord.
Bonjour monsieur.
Et c'est un livre qui me va particulièrement puisque c'est un livre de recettes oubliées de nos montagnes. C'est le titre de votre livre. Et en plus, il y a un sous-titre qui s'appelle Le Pays Toy. Alors, Gérard Bord, avant de parler de vous, pour les gens qui nous écouteraient dans le Gers ou un petit peu loin, c'est où le Pays Toy exactement?
Le Pays Toy, c'est un pays qui est au sud de Lourdes et qui est pris entre Lourdes et la frontière espagnole, les fameux cirques de Gavarnie, de Troumouze et d'Estaubé. À l'est, c'est délimité par le col du Tourmalet, au nord par le pic du Midi de Bigorre, et à l'ouest par le massif du Vignemale et de l'Usardiden.
Vous me dites qu'Argelès, il serait Toy déjà?
Non,
Ah.
non, non. Le pic du Midi, au nord, et donc le pont de la Reine délimite le pays Toy.
Ah, d'accord. Il faut quand même monter un petit peu pour
Il
aller chez les
faut, voilà,
Toy.
il faut rentrer dans la montagne d'altitude.
D'accord, voilà. Mais c'est au sud de Lourdes, effectivement, pour... Merci d'être avec nous. On va parler de vous, de votre livre qui s'appelle donc Gérard Bord, Recettes oubliées de nos montagnes, Le Pays Toy, un sous-titre, avec des illustrations de Raphaël Jessic, c'est ça?
C'est ça, et qui est l'éditrice de ce livre et qui habite dans un magnifique petit village dans les pentes ouest du col du Tourmalet.
Alors, ce livre est paru aux éditions de Plaine-en-Vallée. Voilà, c'est un joli livre. Et alors, vous êtes en photo sur la quatrième de couverture avec, mais on va en parler, on va découvrir un peu votre vie, avec une belle médaille. Et vous venez d'être honoré il y a maintenant 2 mois. Vous avez été honoré chevalier mondial de l'Académie culinaire de France.
Voilà, donc c'est un magnifique, une distinction à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'est vrai que depuis de longues années, je travaille, et notamment pour la défense des produits de notre région, et nous avons la chance d'avoir dans la montagne le seul AOP en viande de mouton pour toute l'Europe,
Barège?
le Barège Gavarnie.
Barège Gavarnie, voilà, tout à fait.
C'est une race barégeoise endémique de nos montagnes pyrénéennes.
Alors, bien sûr, ce livre, il est souvent comme des livres de cuisine avec la photo du plat qui a été fait tout chez vous, hein, et puis, bien sûr, les ingrédients et la recette. Mais il y a des chapitres, et ces chapitres sont présentés, et on retrouve aussi de vieilles photos d'antan. Pourquoi ce mélange?
Eh bien, tout d'abord parce que ma jeunesse, je l'ai en grosse partie passée à Gavarnie et que j'ai eu la chance de voir un petit peu la fin du pyrénéisme, de cette grande époque des Pyrénées et notamment du thermalisme. Et j'ai commencé à rentrer dans les grands hôtels de notre région parce que mes parents étaient pâtissiers à Gavarnie et à tour de rôle avec mon frère, on nous réveillait le matin à 7 heures et nous avions à peu près 8-9 ans et nous allions livrer les viennoiseries dans ces hôtels qui étaient archi complets à cette époque-là. Et donc ça a été le début de notre rentrée dans ce monde de l'hôtellerie, de la restauration. Et donc j'étais impressionné parce que nous arrivions vers 7h, 7h10 dans les hôtels et déjà les fourneaux à charbon fonctionnaient. Et donc souvent nous avions des grandes flammes quand le chef commençait à faire ses cuissons. Et donc j'étais impressionné et je pense que c'est peut-être là que j'ai voulu sans doute rentrer dans ce métier parce que très souvent j'entendais parler de ces clients qui se régalaient avec la cuisine pyrénéenne.
La préface de ce livre est signée quand même par M. Gérard Dupont, président d'honneur de l'Académie culinaire de France. Vous en avez été d'ailleurs le secrétaire général.
Voilà, le secrétaire général, puisque l'Académie culinaire de France est la plus ancienne association gastronomique mondiale. Elle a été créée en 1883 et cette association fournissait à l'époque les chefs des cours d'Europe et des tsars. Et donc nous sommes toujours en activité et nous nous occupons du rayonnement de la haute cuisine française dans le monde.
Alors, on va parler bien sûr de cet ouvrage, mais on va rentrer un peu dans les coulisses. Alors, Gérard Bord, vous êtes né à Tarbes.
Oui, dans le quartier de la cathédrale.
Dans le quartier
Je
de la cathédrale.
suis un enfant du faubourg, comme on dit à Tarbes.
Voilà. Votre père avait un restaurant et... Non.
Non, c'est mon père était de formation pâtisserie-cuisine.
Oui.
Il avait fait les grands palaces avant la guerre. Et donc, quand il est venu dans la région ici, il a rencontré des gens du Nord qui s'étaient déplacés, puisque à l'époque c'était la guerre de 40-45, et ces gens-là, qui avaient de la famille qui était restée sur place, avaient demandé à mon père de faire des conserves pour pouvoir expédier dans le Nord. Et mon père, après cette formation en cuisine-pâtisserie, s'est lancé dans la conserve. Et donc, pendant quelques années, mon père a expédié des pâtés, du boudin venant des Pyrénées pour aider à l'alimentation de ces braves gens dans le Nord.
D'accord. Ah oui. Donc, vous étiez un peu quand même un peu dans le milieu de la cuisine.
Alors, c'est ça. Donc, après, j'ai fait l'apprentissage en affaires familiales. Et c'est vrai que là, j'ai eu la chance de toucher à la pâtisserie, à la cuisine, à la conserve. Et puis, mon père a été l'un des tout premiers à Tarbes à lancer le traiteur. Donc, j'ai mis la main à la pâte très tôt. Et l'avantage, c'est de pouvoir avoir cette diversité de métiers. Et ce qui m'a beaucoup servi après, par la suite, pour entrer dans les palaces en Europe.
On va faire le tour des palaces que vous avez fait, parce que ce sont de belles tables et de beaux noms qu'on va parler. Qu'est-ce que vous préférez entre la cuisine et la pâtisserie?
Alors, moi, je préfère la cuisine.
La cuisine.
Parce que la pâtisserie est très intéressante, mais c'est peut-être un tour de main assez difficile. Et je rends hommage à tous ces grands chefs pâtissiers qui ont fait la renommée, puisque nous avons un pays incroyable dans le monde, c'est le Japon, qui nous a envoyé pendant des années des pâtissiers et des cuisiniers japonais pour apprendre notre métier en France, et qui actuellement font des choses extraordinaires, puisque bon nombre de grands chefs français sont pratiquement tous installés au Japon. Et là, nous avons des ouvriers hors pair.
Voilà, donc c'est quand même plutôt la cuisine. Alors, vous êtes parti, vous m'avez dit, votre père avait fait des palaces et vous aussi, vous avez fait de belles tables.
Mais
racontez-nous.
Quand j'étais en âge d'aller travailler chez les autres, mon père m'a envoyé...
Quel âge vous aviez là?
18 ans.
18 ans.
J'ai commencé par l'hôtel de Paris à Monte-Carlo, le Louis XV actuel. Et donc là, c'est le service militaire qui m'a enlevé de cet hôtel.
Voilà.
Et je suis parti comme cuisinier embarqué sur les bateaux de la Marine nationale.
D'accord.
Ah alors, oui, là aussi, j'ai commencé à tourner un petit peu en Méditerranée, puisque nous faisions les ports d'Afrique du Nord, de Tunisie, de l'Italie en partie, de la Corse et de l'Espagne.
Mm-hmm. Vous avez aussi connu là, des produits locaux alors?
Ah oui. Grâce à la navigation, j'ai eu la chance de connaître un petit peu toutes les cuisines d'Europe. Et c'est vrai qu'elles sont toutes différentes, mais très intéressantes.
Donc vous sortez, vous avez été cuistot alors dans les bateaux?
Non, cuisinier.
Cuisinier, pardon. Vous n'aimez pas ce mot, cuistot?
Non, parce que c'est péjoratif.
C'est péjoratif. Réducteur pour vous?
Oui. Et je pense qu'un cuisinier dans un restaurant scolaire vaut aussi pour son travail, et très souvent éducatif, puisque c'est sans doute à l'école qu'on commence à apprendre aux enfants à manger et à faire le distinguo entre « je n'aime pas » et « c'est pas bon
». D'accord. Ah oui, vous êtes sévère là.
Non. C'est, disons, je pense que quand on est jeune, c'est là qu'on fait l'éducation. Et en plus, nous sommes un pays qui est très regardé dans le monde pour cette qualité de travail. Et donc, je pense qu'il faut continuer à sauvegarder cette chose-là.
Alors, vous avez donc été cuisinier, pas cuistot, donc à l'armée, on a bien compris. Et ensuite, vous êtes reparti dans les palaces?
Alors, après le service militaire, je suis allé aux ambassadeurs à Vichy.
Et vous avez fait quelle période, pardon?
Là, à l'époque, c'était, sauf à l'hôtel de Paris, où c'était à l'année. Après, j'ai fait beaucoup de saisons, parce qu'à l'époque, nous avions la possibilité de passer d'une région à l'autre. Donc, une saison d'été, par exemple, à Vichy, aux ambassadeurs. L'intersaison, je la faisais à Paris, dans les grands restaurants des Champs-Élysées. Voilà. Et ensuite, on repartait soit dans les Alpes, soit en Alsace, ou comme j'ai pu le faire, à Bâle, en Suisse, pour apprendre le travail du sucre et du chocolat.
D'accord. Donc, vous avez beaucoup appris.
Et j'ai forcément beaucoup appris. Bien souvent,
c'est sévère.
C'est très, très, très sévère et très dur. Mais c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de réussite sans un travail sérieux au début.
Et puis, donc, au bout d'un moment, vous avez décidé de revenir à la maison?
Alors, j'ai connu ma femme à Strasbourg, et donc mes parents souhaitaient que nous reprenions l'affaire familiale à Tarbes. Mmh. Et donc, j'ai quitté une très, très bonne place à Strasbourg pour revenir dans les Pyrénées.
Et vous me disiez que d'ailleurs, le patron à l'époque avait eu du mal à vous laisser partir.
C'est vrai. J'étais sous-chef d'une brigade de 44 cuisiniers pâtissiers. Et donc, le grand patron m'avait convoqué et m'avait dit « Je ne peux pas vous empêcher de partir pour reprendre les affaires de vos parents. Mais sachez que s'il y avait un conflit de génération, c'est avec grand plaisir que je vous rendrai au poste que vous quittez. » Voilà. Et quand, bien entendu, cela est arrivé, je voulais moderniser. Mon père ne souhaitait pas trop. Et donc, j'ai dit un jour à ma femme « Allez, on repart à Strasbourg ». Et ma femme me dit ce jour-là, elle me dit « C'est dommage parce que ton pays est joli ».
Donc vous êtes resté.
Et donc je suis resté. J'ai trouvé un travail dans l'éducation nationale et forcément sur le plan salarial c'était pas très très facile, mais je me suis accroché à ce poste-là et c'est vrai que par la suite je...
Vous l'avez jamais regretté?
Non, non, parce
quand
que...
On a ce passé, enfin, quand on a ce passé dans les palaces, dans les... Et puis finir dans l'éducation nationale, ça peut paraître...
Non, parce que j'ai découvert à ce moment-là la transmission aux jeunes enfants. Et c'est vrai que quand on a une expérience comme j'avais, c'était très intéressant de passer le flambeau à ces jeunes-là. Et la difficulté actuellement, c'est que nos métiers demandent de la rigueur. Et je pense que nos jeunes actuellement n'ont pas très bien compris que pour réussir, il fallait se relever les manches.
On a du mal, je crois, à recruter dans ces métiers de,
oui.
de hôtel-restaurant parce que, ben oui, c'est le dimanche, c'est le soir, c'est tard, c'est beaucoup d'heures.
Tout à fait. Alors, c'est dommage parce que ce sont des métiers où l'on peut être embauché sur les 5 continents du monde, puisque moi, grâce à ce métier-là, j'ai été au Japon, j'ai été en Amérique du Sud, j'ai été en Amérique du Nord, j'ai été au nord de l'Europe, au sud de l'Europe, et j'ai toujours trouvé du travail. Et en tout cas, quand on a une certaine valeur, nous n'avons même pas besoin de chercher. On vient toujours vous faire des propositions.
Oui,
c'est pour ça que j'encourage les jeunes à prendre conscience de cette chose-là et de s'accrocher et de vraiment réussir et de ne pas se cantonner à une spécialité, mais de regarder un peu tout, les poissonniers, les bouchers, les charcutiers, parce que quand on est cuisinier, après on touche à tous ces corps de métier et c'est là qu'on prend de la valeur et qu'on vient vous chercher.
Alors, on parlait tout à l'heure de cette fameuse Académie culinaire de France, où vous en avez été le secrétaire général. Comment ça s'est passé?
Alors, grâce à mon parcours professionnel, ça fait 43 ans que j'étais à l'Académie culinaire de France, qui est organisée comme l'Académie française. Et nous avons des collèges et nous avons notamment 54 fauteuils de grands noms du chef cuisinier français. Et donc, on nous attribue un fauteuil. Et là, vous avez à faire l'éloge du grand chef dont le fauteuil porte son nom. Et moi, j'ai eu la chance d'être admis sur le fauteuil d'Henri Sédard, qui a été le dernier chef français au service de la couronne d'Angleterre. Et ceci, on parlait français jusqu'en 1937.
D'accord.
Voilà. Et donc, c'est des choses extraordinaires parce que là, vous rencontrez beaucoup de monde. Et actuellement, je fais de la recherche sur un chef français qui a servi 3 tsars, Alexandre II, Alexandre III et Nicolas II. Et qui a fait une carrière à l'extérieur. Et puisque je vous parlais de ce travail difficile mais réussi, voilà un chef qui a eu une réussite financière puisque sa richesse se parle en 7 chiffres. Et il était cuisinier et il avait commencé comme apprenti cuisinier pâtissier à Carcassonne.
Gérard Bord, donc voilà un parcours qu'on a évoqué assez rapidement hein, entre votre apprentissage, votre métier de cuisinier dans les plus grands palaces de France et d'Europe, hein, puisque vous avez été jusqu'à, voire même international, puisque vous nous parlez de plusieurs continents. Et puis vous avez fini l'éducation nationale. Vous êtes à la retraite aujourd'hui ou vous continuez toujours un petit peu?
Alors, je suis à la retraite, mais je continue toujours à travailler pour le rayonnement de la haute cuisine française dans le monde.
À travers
l'Académie culinaire, puisque nos délégations dans le monde sont organisées avec des professionnels, soit qui ont appris le métier en France ou qui ont été formés dans leur pays respectif par des chefs français. Et donc, obligatoirement, ces délégations sont toujours présidées par un chef de nationalité française.
Parlons de votre livre, en quelques mots. Moi, ce que je vous propose, monsieur Bord, c'est peut-être de créer une chronique sur Radio Présence, parce que vous avez, je pense, des anecdotes absolument incroyables à nous raconter et une vie absolument passionnante et de belles recettes aussi à travers ce média qu'est la radio, à transmettre à certaines personnes. On parlait... en buvant le café, bien sûr, avant de commencer cet entretien, on racontait une anecdote assez croustillante sur le gâteau à la broche. Alors, tout le monde se le dispute en disant « il vient de chez moi », et vous avez une autre vision des choses.
Voilà. Alors, effectivement, il y a 4 départements dans le sud de la France qui se disputent l'origine du gâteau à la broche. Alors, c'est l'Aveyron, c'est l'Ariège, c'est les Hautes-Pyrénées et une partie du pays du Béarn. Et alors là aussi, on racontait que c'était de l'époque napoléonienne. En revenant de Russie, ce sont ces militaires qui ont ramené cette recette. Par contre, moi, j'ai découvert que la première fois qu'on parle d'un gâteau rôti, c'est au XVe siècle. Et ceci, c'est un rôtisseur dans les cuisines du Vatican qui a de la place sur le tournebroche et qui a l'idée d'accrocher une éponge et de chauffer l'éponge et ensuite de mettre sur cette éponge, avec les viandes qui rôtissent, une pâte. Et on appelle ça à l'époque le gâteau rôti. Et cette recette va traverser les Alpes et venir à Avignon avec les papes. Et donc, cette recette prend de l'essor en France et elle est distribuée dans les monastères qui sont dans l'Aveyron, dans l'Ariège, les Hautes-Pyrénées et le Béarn. Et je me suis aperçu que ces monastères étaient tous implantés sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Et donc, c'est à partir de là que cette recette va se faire connaître un peu partout et que l'on distribue ce gâteau rôti, qui sera certainement amélioré par la suite dans chaque département, et notamment, probablement, avec la venue au port de Bayonne du sucre, en provenance d'Amérique du Sud. Et donc, ce gâteau va se modifier et on donne un petit morceau de ce gâteau à ces pèlerins qui, en cours de route, ramassent des baies et des fruits sauvages, et donc ont ce petit gâteau qui est fantastique puisqu'il se conserve et il devient de plus en plus croquant, donc sans risque de moisissure et tout ça. Et voilà comment le gâteau à la broche nous vient du 15e siècle et du Vatican.
Voilà, par exemple, une des anecdotes que vous pourriez nous raconter. Une autre dans votre livre, c'est la cuisine solaire. Vous avez un four solaire chez vous. Alors là, il n'y a pas plus écologiste. Et en plus, vous nous dites qu'on monte à 320 degrés.
Alors, la cuisine solaire est partie d'une idée. Au village de Montmerre, il y avait l'intendant du pic du Midi de Bigorre. Et quand il y avait des photos un peu exceptionnelles, j'avais la chance de le rencontrer et il me montrait. Et un jour, j'ai vu les protubérances du soleil. C'était des flammes de plus de milliers de kilomètres. Et ça m'a rappelé les flammes des cheminées chez mes grands-parents. Ouais. Et ce jour-là, j'ai eu comme un flash. J'ai pensé que peut-être on pouvait essayer de capter les rayons solaires et d'essayer de cuire les aliments. Et donc, depuis 1977, j'ai travaillé sur ce projet-là et nous avons construit empiriquement un cuiseur solaire qui monte à 321 degrés. Et je peux vous dire que les poulets qui tournent sur le tournebroche sont aussi dorés que dans un four traditionnel et ça ne coûte rien, sinon que de construire un petit four qui ne coûte pas bien cher non plus. Et vous avez une viande qui est dorée, croustillant, la peau croustillante, et qui reste moelleuse.
Voilà, et on a des photos sur votre livre,
tout à fait,
bien sûr, de ce four solaire. Alors, il y a plein de recettes avec des produits, puisque vous avez un sous-titre quand même sur votre livre, c'est le Pays Toy. Donc, ce sont des produits qu'on peut trouver à la montagne. Il y a des œufs, il y a des champignons, il y a de la truite, enfin, ce qui est à l'honneur. Il y a des desserts, il y a même les oignons de Trébons, même là, un petit peu plus bas, on a quitté un peu le Pays Toy, mais il y a de très bons produits. On retrouve... De la viande, bien sûr, de l'agneau, avec le label.
Le mouton, AOP, Barrage Gavarnie. Ben,
et puis l'agneau, on retrouve voilà, pas mal de recettes. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre?
Bien, c'est-à-dire que quand on était gosse avec mon frère, on courait un petit peu la montagne, et quelquefois, dans les fermes de montagne, nous avions soif, et donc on demandait un peu d'eau, et nous rentrions dans les cuisines, et souvent, il y avait des bonnes odeurs. Et c'est vrai que ça m'intriguait un petit peu, ces odeurs, parce qu'elles étaient souvent différentes. C'était des produits qu'ils avaient trouvés soit dans leur jardin, soit dans la montagne. Et donc, ceci m'intéressait beaucoup. Non pas que je sois écologiste, mais je trouvais que, d'abord, la cuisine était assez facile à faire et que c'était des produits typiques de chez nous. Et donc, je pense que c'est là aussi le point de départ de mon choix d'être un jour cuisinier.
Alors, bien sûr, on pourrait passer la journée à parler de ce livre. Hein. Donc, Gérard Bord, Recettes oubliées de nos montagnes, en sous-titre le Pays Toy. On termine par cette autre anecdote. Si on lit la quatrième de couverture, vous dites donc des recettes cuisinées à l'énergie solaire, on vient d'en parler, et deux autres qui ont voyagé dans l'espace.
Alors, ça c'est la cuisine spatiale. Je suis resté pendant 10 ans à la formation des professeurs à l'ENNA de Toulouse, qui est l'école normale nationale d'apprentissage, où on recevait des professeurs de cuisine et de restaurant, non pas pour leur apprendre le métier de cuisinier, mais pour apprendre la pédagogie et comment enseigner. Et quand je faisais la recherche sur la cuisine solaire, comme ces professeurs venaient d'un peu partout de la France, les week-ends, ils étaient seuls sur la région toulousaine, et donc je les invitais avec moi à participer à la recherche de la cuisine solaire. Et l'un d'entre eux a eu l'idée, à la suite de propos tenus par un passionnat français, de se lancer dans la cuisine spatiale. Alors ça a été un travail fastidieux parce qu'il a mis 4 ans avec les élèves de l'école hôtelière de Souillac à mettre au point cette cuisine-là. Mais il a eu la chance d'avoir 15 de ses recettes qui ont été homologuées par les responsables des vols spatiaux et donc qui ont été consommées dans l'espace. Et donc les deux recettes que j'ai choisies, c'est parce que ce professeur était originaire de la Corse, donc il y a une recette corse, et l'autre c'était des cailles au Madiran, parce que bien entendu, le vin étant de chez nous, j'ai choisi ces deux recettes, mais je peux vous dire que dans l'espace, ça a fait le régal des vols internationaux, parce que le dimanche, on ouvrait une boîte spécialement de cuisine française à consommer là-haut.
Incroyable. Voilà, Gérard Bord. Voilà, je conseille bien sûr à tous nos auditeurs à se procurer ce très beau livre. Gérard Bord, Raphaël Jessic, donc celle qui a signé les photos.
Alors, Raphaël Jessic est l'éditrice de ce livre.
L'éditrice, voilà. D'accord. C'est pas la photographe.
Elle a fait les photos aussi. Et alors, j'ai souhaité qu'elle apparaisse comme auteur sur le livre parce que j'avais l'idée de mettre quelques recettes ancestrales du pays Toy. Mais quand je lui ai proposé les 3 ou 4 recettes que j'avais, elle m'a dit « mais il y en a d'autres, bien d'autres ». Et alors à ce moment-là, je lui ai dit « écoute, toi qui habites la montagne, c'est plus facile pour toi d'aller interroger les grands-mères dans la montagne pour avoir d'autres recettes ». Et comme elle est revenue avec pas mal de recettes ancestrales, je lui ai dit « écoute, on signe le livre tous les deux pour la remercier du travail qu'elle avait fait auprès de tous ces anciens du pays Toy ».
Allez, on va donner quelques recettes pour terminer. Œufs au plat bergère. Alors là, c'est des œufs, des mousserons, du beurre, du sel, du poivre, tout simple. Mais qu'est-ce que c'est bon.
Vous remarquerez qu'il y a une cuisson bien particulière, parce que faire des œufs au plat, tout le monde sait les faire, mais réussir la cuisson, c'est pas évident pour tout le monde.
Ah. Œufs pochés sur lit de sarrou.
Alors les sarrous, ce sont des épinards sauvages que l'on trouve autour des cabanes de bergers ou des granges foraines de haute montagne.
Voilà, des croquettes au fromage.
Alors croquettes au fromage.
De Jouenou.
De Touenou.
De Touenou, pardon.
Qui était un chef du restaurant des Pyrénées à Gavarnie, face au cirque. Et il avait la cuisine qui était toujours ouverte et nous passions pour entrer à la maison devant cette cuisine. Et je m'arrêtais toujours parce qu'il y avait soit des odeurs ou soit des flammes quand il faisait sauter quelque chose sur le fourneau, les flammes qui léchaient presque le plafond. Et ça, j'ai été impressionné par cette chose-là.
Ah, c'est... Voilà, la truite à la crème d'ail, ça doit être bon.
Voilà, alors ça aussi, c'est facile à faire. Alors, à l'époque, vous savez, la viande, les poissons, c'était uniquement des produits de la montagne, puisqu'on n'allait pas au marché comme on le fait maintenant. Et donc, ça tournait toujours autour des truites, de la viande de mouton et des produits que l'on trouvait soit dans le jardin, soit dans la montagne, et que les bergers ramenaient quand ils avaient visité leur troupeau.
Voilà, alors bien sûr, on pourrait faire le tour, la truite brésée au Madiran, la truite à la ventrèche et ail des ours.
Des ours, alors ça c'est un ail sauvage que l'on trouve dans la montagne. Et c'est très intéressant parce que c'est un parfum bien particulier qui n'est pas aussi fort que l'ail traditionnel, mais qui est de la nature puisqu'on le ramasse au bord des rivières.
Voilà. Truite du Gave au foin, ça c'est original.
Voilà,
aussi.
Ça aussi.
Cuit au foin ?
Oui, cuit au foin. Alors ça se faisait, pour changer un petit peu les recettes, à l'époque de la rentrée du fourrage, donc du foin, et avec les foins frais, ça donne un parfum assez exceptionnel. Et c'est facile à faire.
Voilà, oui, tout a l'air bien facile. Oui, la truite au bleu, alors les marmites des gaves à la réglisse de fenouil sauvage. Alors, moi, ce que je vous propose, Gérard Bord, c'est aujourd'hui de nous arrêter là et peut-être se retrouver à la rentrée pour toute une série de chroniques. On prendra le temps de parler de chaque recette, des conseils de cuisson. Voilà, vous nous dites un œuf au plat, ça a l'air tout bête, mais la cuisson est très importante. Alors peut-être que on verra ensemble comment on peut tout à fait nous donner quelques conseils. Nous parler un peu de votre vie, de vos anecdotes, puisque je pense que vous avez eu une vie tellement merveilleuse et avec tellement de rencontres et d'aventures que ben, on sera très heureux d'écouter toutes ces anecdotes. Nous parler de ces recettes. Voilà, c'est un très beau livre que je conseille à tout le monde. Gérard Bord. Donc, Raphaël Jessic, Recette oubliée de nos montagnes, en sous-titre Le Pays Toy, et c'est paru aux éditions de Plaine en Vallée. Voilà. Et pourquoi il y a marqué la fourchette de la marmotte en haut ?
Eh bien, c'est tout simplement parce que l'éditrice souhaite peut-être continuer un petit peu sur cette lancée-là.
Ah, c'est une série ?
Une série sur ce nom-là, La fourchette de la marmotte.
Voilà. Et ce livre est au prix de 25,90 € avec toutes les illustrations. C'est un très beau cadeau. On peut se l'offrir. On peut l'offrir à quelqu'un. Moi, je pense que je vais l'acheter pour mon père parce qu'il y a de vieilles recettes. Papa aimait bien la touradis là ou là.
Oui.
Et enfin, il aimait bien. Il avait ce plat et des fois, une personne lui fabrique encore. Et je pense que quand il mange ça, la machine à remonter le temps se met en marche. Et même si ce n'est pas forcément... Enfin, moi, je n'ai pas trouvé ça... terriblement très bon, mais bon.
À l'époque,
c'était ce
que l'on mangeait.
C'est ce qu'on mangeait.
Et nous n'avions pas grand-chose comme choix, donc on se régalait de ces choses-là.
Et il est très heureux d'en manger.
J'accepte votre proposition de revenir parler un petit peu de la cuisine du Pays Toy, et ne serait-ce que pour partager avec les gourmets cette cuisine toute simple, mais qui a du goût.
Voilà, qui a du goût. Merci beaucoup Gérard Bord d'avoir fait d'être venu. On remercie Gérard Croza qui vous a amené, qui nous fait une belle rencontre. Merci à lui. Puis je vous souhaite un bel été et puis on se retrouve en septembre.
Merci.
Au revoir.
Et à bientôt. Au revoir.